L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, on retrouve, comme c'est le cas une fois par trimestre, l'association CLCV Consommation, Logement et Cadre de Vie, les soldes. Mot masculin, je vous le rappelle, les soldes d'hiver commencent mercredi. Ils ont cours jusqu'au mardi 7 février inclus, sauf dans certains départements, mais qui ne sont pas bretons. En cette période d'inflation des prix, des soldes vont peut-être particulièrement vous motiver. Même si ça fait plusieurs années qu'on dit que les soldes s'est dépassé, qu'avec toutes ces promotions, ventes privées et autres Black Fridays, ça ne veut plus rien dire. Alors que ce soit la ruée ou pas, ce n'est pas une raison pour se faire avoir. Et la CLCV est là aussi pour vous informer, faire de vous des consommatrices et consommateurs avisés. Bonjour Valérie Boulge.
Bonjour.
Juriste de l'association CLCV. Alors, je crois que les soldes ont un peu évolué ces dernières années. Il y a eu des petites évolutions.
Alors en fait, bizarrement, on est revenu à quelque chose qui existait précédemment. Donc c'est l'Union européenne en fait qui a légiféré. Donc il y a eu un transfert en fait dans le droit français qui depuis le 28 mai, alors ça doit être 2022, a donné une définition au prix de référence, c'est-à-dire le prix de base sur lequel va être calculée la remise qui va vous être accordée pendant les soldes. Jusque-là, on parlait de prix de référence, mais la législation, en fait, ne déterminait pas, ne donnait pas de définition tout simplement du prix de référence, ce qui fait que c'était le vendeur qui le déterminait. Et il devait, en cas de contrôle, pouvoir expliquer comment il était arrivé à ce calcul et la raison pour laquelle c'était ce prix sur lequel il avait appliqué la baisse ou le rabais pour les soldes.
Oui, il pouvait augmenter deux fois
voilà.
Son prix avant de faire
voilà,
une baisse.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que je dis, c'est que si on revient en arrière, c'est qu'en fait, cette législation, elle a déjà existé, en fait, entre, je crois que c'était 2008-2015, où on disait que le prix de référence, en fait, c'était le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours qui précèdent, en fait, cette promotion. Que ça soit,
cette baisse,
que ça marche
quoi.
Aussi,
ouais.
Promotion ou solde, c'est la même chose. Simplement, la législation européenne à ce moment-là n'était pas aussi restrictive et une législation d'un pays donc européen ne pouvait pas être plus restrictive que la législation européenne.
Ah.
Donc, je crois que je sais plus quel. Il y a un autre pays, pas la France à ce moment-là, qui avait été condamné. Donc, le législateur a fait un peu marche arrière et était revenu à une législation plus souple en fait, en laissant aux vendeurs, le soin de déterminer le prix de référence.
Et là, on est revenu là-dessus.
On est revenu là-dessus. D'accord. Donc, c'est bien le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours qui précèdent les soldes ou les promotions.
D'accord. Alors, il faut aussi qu'on fasse la différence entre les soldes. Alors, il n'y a pas eu une histoire de date qui a été modifiée en France.
Non, alors après,
elle durait moins longtemps.
Je crois qu'il y a eu un moment donné, effectivement, il y a un ou deux ans, où ils avaient modifié un petit peu pour s'adapter. Je pense que c'était peut-être le Covid ou autre qui avait fait qu'on avait peut-être changé les dates, mais normalement c'est un arrêté, alors je crois qu'il date de 2019 le dernier, qui détermine en fait la période de solde, donc qui est de 4 semaines, le jour de départ et l'heure de départ, ce qui veut dire que qu'on soit... Excusez-moi, il y a mon équipe chatouille, que l'on soit sur internet ou dans le commerce, dans le magasin.
Désolée, oui, ça arrive, parfois c'est du direct.
Dépendant de notre volonté. ça sera la même chose, c'est-à-dire que c'est pas en allant sur internet, vous allez vous dire, je vais peut-être pouvoir mettre dans mon panier déjà certaines choses, quoique sur le panier vous pouvez mettre, mais ça sera pas vraiment les mêmes prix. Les soldes vont commencer partout à la même heure. Il peut avoir certaines réglementations, comme vous l'avez
oui,
indiqué tout à l'heure, selon les départements, mais
ça
doit être lié au décret. En
d'accord,
fait,
très bien. Alors, revenons à cette différence entre les soldes et les promotions. Alors, il y a plein de différences, en fait, c'est ça ?
Il y a des différences et des similarités, on va dire ça comme ça.
Alors, commençons par les différences.
La différence, en fait, c'est la définition légale. C'est-à-dire que les soldes, il y a une définition légale. Alors, je vais vous la lire, ça sera le plus simple. Si mon nez arrête de me chatouiller. Les ventes. C'est pas gagné.
À vous, à vous.
Merci. Alors, les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré des marchandises en stock. Là, c'est la définition légale qui est donnée en fait par le Code du commerce pour les soldes. En matière de promotion, il n'y a pas de définition. Donc, en fait, ce sont des périodes de remise qui sont... Et donc, S'il n'y a pas de définition, il n'y a pas non plus de date précise, donc c'est au choix du vendeur.
Donc ce qu'on doit vendre en fait en solde, c'est uniquement des produits qui restent. Enfin, on peut pas.
Alors en fait, oui,
de la nouvelle
alors,
collection.
Il faut en fait que les produits en fait qui sont vendus, qui sont soldés, il faut qu'ils soient à disposition du vendeur dans le mois qui précède.
D'accord.
Donc, il ne peut pas se réapprovisionner en cours de solde. L'idée, en fait, des soldes, c'est de déstocker, en fait, de faire de la place.
C'est ça. Bon, donc des produits, on va dire, assez anciens, entre guillemets. Et puis surtout, bon, ben, les soldes, il y a un calendrier très précis, on l'a dit, hein, donc 4 semaines, enfin 2 fois par...
Deux fois par an, en fait. Hiver et été, généralement. Donc là, et le début, mercredi.
Qui est-ce qui fixe ça?
C'est un décret, donc c'est l'État.
Oui, d'accord. Alors, les clients, les soldes, tout le monde peut profiter des soldes, ce qui
alors, c'est ça, c'est ça la différence entre, je dirais aussi, une des différences entre les soldes et les promotions, c'est que tout le monde est concerné. C'est-à-dire, alors tous les produits ne sont pas concernés, c'est-à-dire que dans un magasin, tous les produits ne seront pas concernés par les soldes parce qu'ils ont pu, rentrer la nouvelle collection. Donc ça ne sera pas concerné, mais les produits de l'ancienne collection, oui. Par contre, toutes les personnes, tout client qui rentre dans une boutique ou qui achète sur Internet peut bénéficier des soldes. À la différence des promotions qui peuvent ne concerner que certaines personnes. Ça peut être les étudiants, par exemple. Vous êtes étudiant, vous avez droit à 10% sur vos achats dans certains magasins. Ça peut être ceux qui disposent, en fait, d'une carte de fidélité. Ça pourrait être aussi des personnes âgées aussi, selon les ventes qui peuvent être faites. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément toute personne, et tout ce qu'il faut, en fait, ce qu'il ne faut pas arriver, il ne faut pas que ça soit discriminatoire. C'est-à-dire que le choix de dire c'est pour telle catégorie de personnes ne doit pas être discriminatoire. Mais c'est vrai que
c'est pas évident.
Voilà.
Là, franchement, on peut
c'est juste la réglementation, elle est comme ça.
Okay,
c'est-à-dire que ça peut concerner que certaines personnes, à la différence des soldes, mais ça ne doit pas être discriminatoire.
Alors, c'est la question de la revente à perte. Est-ce qu'on a le droit de revendre à perte
En période de solde, oui. Sur ces produits-là, c'est autorisé. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment que sur cette courte durée. En matière de promotion, hein, en promotion d'ailleurs, ça peut être donc des promotions dans l'idée de dynamiser un petit peu les ventes. Ça peut être aussi lié à une liquidation, qu'elle soit temporaire s'il y a des travaux ou définitive en cas de liquidation judiciaire, ou ça peut être simplement une opération de déstockage histoire de faire de la place. Dans ces trois promotions ou autres types de ventes que les soldes, la revente à perte n'est pas autorisée.
D'accord. Donc le prix de référence, on en a parlé, donc c'est dans les 30 jours le prix le plus bas qui était mis sur le produit dans les 30 jours. Est-ce que par hasard il y a une définition de... c'est vrai qu'on a tendance, quand on pense solde, à penser vêtements, mais est-ce qu'il y a des restrictions de produits, des produits qu'on ne peut jamais vendre en solde ou je sais
Non,
pas.
À ma connaissance, il n'y en a pas. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de vêtements, hein, c'est souvent qui est concerné, mais non, parce que vous allez regarder un petit peu, tout l'électroménager ou des choses comme ça peuvent être soldés. En fait, les magasins vont appliquer ça surtout pour déstocker en fait, hein, leurs produits. Donc ça peut être autre chose que les vêtements. À ma connaissance, il n'y a pas de limitation par un texte du type de produit qui peut être soldé. Le tout, c'est qu'il soit disponible en magasin dans le mois qui a précédé.
Ou en ligne.
Alors
voilà, c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être eu des évolutions liées à Internet. Enfin, je sais pas.
La différence en fait entre les soldes par Internet ou les soldes en magasin, ça va être juste la différence qu'en solde par Internet, on va se retrouver sous un autre type de législation, c'est-à-dire la vente à distance. Et là, le législateur protège le consommateur et lui permet de pouvoir revenir sur son achat dans les 14 jours qui suivent cet achat, ou la réception de cet achat. Après, il y a certains revendeurs sur Internet qui peuvent aller au-delà. Donc, je sais que des grands marchands comme Amazon, Cdiscount ou du commerce et des choses comme ça peuvent proposer, par exemple, un délai d'un mois, par exemple, pour revenir sur un achat. Ça, c'est leur droit. Ils ne peuvent pas aller en deçà du délai de 14 jours qui est prévu par les textes, mais rien ne les empêche d'avoir l'application de textes plus favorables aux consommateurs.
Bien sûr. Pour les soldes comme pour les produits,
voilà.
J'imagine.
La différence peut-être aussi, ce qu'il faut voir, si c'est par Internet, donc vous pouvez revenir sur votre achat. Par contre, il est tout à fait possible que vous deviez payer en fait le retour du produit.
Ah oui.
Donc, sauf à ce que le professionnel vous dise non, c'est à notre charge, c'est gratuit, ou s'il ne vous informe pas que le retour du produit est payant, ça peut être payant. À lui de vous en informer.
Bon, solde ou pas solde, quoi.
Enfin, vous serez remboursé, en fait, sur le produit, le prix du produit, mais vous pourrez éventuellement avoir à payer le retour, les frais de transport de votre produit. Donc, c'est à penser avant d'acheter quelque chose.
Et quand c'est les soldes, est-ce qu'il y a des indications, enfin, la réglementation, sans doute, prévoit une indication particulière, enfin, un étiquetage, qu'est-ce qui est prévu
effectivement,
là-dessus
Normalement, comment dire, il faut déjà que le prix de référence apparaisse, hein, ce fameux prix de référence, donc prix pratiqué, le plus bas pratiqué dans les 30 jours qui précèdent la vente, le rabais et le nouveau prix, ou alors le nouveau prix, mais avec aussi le pourcentage, le taux de rabais, en fait, 30%, 40%, 50%. Après, ça peut être jusqu'à les 80, hein, puisqu'on a bien dit aussi, même plus, parce que finalement, la vente à perte est autorisée sur la période de solde uniquement.
Est-ce qu'il y a une réglementation sur la clarté de l'indication ? Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit minimum.
Il faut qu'au minimum, je pense qu'il y ait le prix de référence, le prix, comment dire, le prix corrigé en fait, hein, et le prix barré, hein, ou soit le pourcentage.
On peut pratiquer des soldes et des promotions en même temps. Enfin,
logiquement, non, ça n'a aucun intérêt en fait. Justement, pendant les soldes, il y a déjà ces rabais-là. Donc les rabais peuvent être les mêmes. La seule différence, c'est que ça peut aller plus loin en période de solde du fait qu'on peut pratiquer la vente à perte.
C'est ça.
Donc automatiquement, il n'y a pas d'intérêt pour un professionnel de pratiquer deux promotions en même temps.
Quelles sont les garanties des produits soldés, autour des produits soldés ?
Alors, la garantie d'un produit soldé, en tout cas au niveau des garanties légales, je vais m'expliquer après, comment dire, sont les mêmes qu'on soit en période de solde ou pas. Les garanties légales, donc il y en a deux, hein, y a la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés. Donc ce sont deux garanties, quand on dit légales, c'est pas que les autres sont illégales, mais elles sont prévues par des textes de loi. Voilà pourquoi on dit légales. Alors, comment ça se passe ? La garantie légale de conformité, c'est le produit que vous achetez doit être conforme à l'usage attendu de ce produit, comment dire, dans les 2 ans, en tout cas, comment dire, qui suivent la date d'achat. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous êtes en droit d'attendre que le produit réponde.
Le pain, quoi.
Exactement. Donc, ça veut dire que, comment ça se passe ? La garantie légale de conformité, alors, je vais m'expliquer parce que ce n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur le vendeur et pas sur l'acheteur. C'est-à-dire que si votre grille-pain, si on prend cet exemple-là, ne grille pas le pain, ce n'est pas à vous de prouver qu'il ne grille pas le pain, ça va être au vendeur pour refuser de réparer ou d'échanger comment dire, le grille-pain, de prouver qu'il grille le pain.
Oui, alors, pour un grille-pain, on voit bien, mais alors pour un vêtement, enfin, je sais pas, imperméable, bah, c'est quand même plus délicat, là.
Voilà, alors après, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, cette garantie de conformité, parce que justement, c'est pas à vous de prouver qu'il y a un problème. C'est au vendeur de prouver qu'il n'y en a pas, pour refuser de vous, comment dire, de vous échanger ou de vous réparer l'appareil ou le vêtement. Parce que le principe n'est pas, vous pouvez pas demander le remboursement immédiatement. En matière de garantie de conformité, dans un premier temps, vous êtes en droit de demander la réparation ou l'échange. Et si cette réparation ou cet échange n'est pas possible, vous pourrez demander le remboursement.
Et ça pendant 2 ans.
Pendant 2 ans.
Donc garantie légale.
C'est-à-dire la garantie et cette charge de la preuve qui auparavant était que de 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, c'était à vous d'apporter la preuve de la non-conformité. Ça a été étendu sur les 2 ans. Donc c'est quand même très intéressant et très favorable aux consommateurs. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser.
Okay.
C'est assez méconnu, donc c'est bien d'y penser et de le savoir. Après, vous avez la garantie légale de vice caché, qui est plus connue, mais là, justement, on va avoir le problème de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'un vice caché, c'est un vice qui préexistait avant l'achat et qui rend impropre, en fait, l'objet, en fait, à sa destination. On va dire
là,
ça comme ça.
Il n'y a pas de durée limite, c'est ça ?
Alors là, c'est 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice.
Ah,
donc, ça peut être plus long. Il y en a un, c'est 2 ans à compter de la date d'achat. L'autre, c'est 2 ans pour agir en justice à compter de la découverte du vice. Si le vice se découvre dans les 2 ans qui suivent, ça peut ramener jusqu'à 4 ans. Maintenant, la différence avec les vices cachés, avec la conformité, c'est que les vices cachés, la charge de la preuve pèse sur le client. Et là, la plupart du temps, quand il y a un problème, il va falloir passer par une expertise pour apporter la preuve du vice caché. Donc, c'est plus compliqué à mettre en œuvre.
Et plus coûteux parfois même.
Et plus coûteux, oui. Et il faut mettre dans la balance ce que ça va vous coûter au niveau de l'expertise. expertise parce qu'on n'est jamais sûr du résultat et ce que vous allez pouvoir obtenir parce que si vous n'obtenez pas le résultat escompté et que l'expertise n'a pas le résultat que vous attendez, ben, vous aurez payé l'expertise tout en ayant le produit et sans pouvoir vous faire rembourser.
Bon, ça vaut le coup pour la voiture achetée en solde mais pas vraiment pour
voilà.
Les chaussons.
Alors après j'avoue que s'il n'y a pas de texte qui détermine les soldes, j'ai jamais vu de voiture en solde mais moi après,
oui, jamais.
plutôt en promotion peut-être, mais en solde je n'en ai pas vu mais bon, peut-être.
En tout cas, c'est bon à savoir. Et alors, en revanche, un article soldé, s'il n'y a pas de vis caché ou s'il n'y a pas de défaut de conformité, il n'y a, en effet, c'est pas repris ni échangé. C'est ça.
Alors, on va. Alors, il y a effectivement autrement. Alors, on a les garanties légales, comme j'ai expliqué, qui sont prévues par des textes de loi, et on a les garanties commerciales. La garantie commerciale, c'est une garantie qui est apportée par le vendeur ou le fabricant, qui accorde donc à l'acheteur. Souvent, c'est des garanties 1 an, 2 ans. En fait, c'est le vendeur ou le fabricant qui va décider un petit peu des modalités. Combien de temps, qu'est-ce qui est concerné et quelle modalité on va appliquer pour la faire marcher.
Là, ça concerne plutôt les erreurs d'achat, enfin, genre on a acheté quelque chose de trop grand ou trop petit.
Ça ne rentrera pas dans la garantie commerciale. En fait, c'est aussi quand il y a des dysfonctionnements, la garantie commerciale. Comment dire ? Mais effectivement, pendant les soldes, un vendeur pourrait très bien décider qu'alors qu'il accorde en temps normal une garantie commerciale sur un produit, il pourrait décider en période de solde que cette garantie commerciale ne s'applique pas. Donc ça, il faut se renseigner. Pour ce qui est du cas que vous évoquez de, voilà, j'achète un vêtement, je rentre chez moi, bon, finalement, il ne me va pas si bien que ça, je retourne en magasin. Alors ça va être à la bonne volonté du commerçant. C'est-à-dire qu'il peut, de manière commerciale, accepter de reprendre le produit, mais soit il vous rembourse, ou soit il vous propose un avoir. Et ça, là-dessus, soit il ne reprend rien du tout. Il a la même solution. Il ne reprend pas, et là, bah, tant pis, vous avez acheté, c'est un achat. Quand vous allez dans un magasin, c'est vous qui faites la démarche, vous n'êtes pas protégé par le législateur. Donc, c'est un achat ferme et définitif. Vous décidez ça me convient pas, je reviens voir le vendeur, il peut très bien vous dire ah ben non, je suis désolé, vous avez acheté, moi je reviens pas dessus. À titre commercial, il y en a quand même beaucoup qui reprennent. Maintenant, c'est pas forcément un remboursement et ça peut être un avoir.
Mmh. Et là, on parle de magasins où on va physiquement.
Tout à fait.
Évidemment, on parle pas de la vente en ligne.
Non,
là,
parce
c'est
que la vente en ligne, on a le droit de rétractation, donc on a les 14 jours.
Dont on a parlé, d'accord. Les risques de pratiques commerciales trompeuses en période de solde, alors pour résumer, qu'est-ce que ce serait ?
Le risque, en fait, c'est justement, alors là, ça va peut-être évoluer un petit peu, on va voir par rapport à ce prix de référence, puisque depuis le 28 mai 2022, donc c'est-à-dire qu'il y a dû avoir une période de solde, donc l'été 2022, là, ça va être la deuxième, le prix de référence, il y a une définition qui est donnée. Donc, comment dire ? Il se doit de respecter. Donc l'intérêt, ça sera peut-être pour les acheteurs, pour éviter de voir un petit peu les fausses annonces, avoir des prix qui sont gonflés. Comment dire, c'est-à-dire pas les prix. On a augmenté le prix pratiqué dans les 30 jours qui précèdent. On le gonfle pour faire apparaître un rabais qui va paraître plus important qu'il n'est en réalité. Donc, c'était ça en fait, hein, les abus qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire, parce qu'avant, comme le prix de référence n'était pas déterminé n'avait pas une définition légale, finalement, c'était le vendeur qui déterminait ce prix comme il le voulait. Donc, maintenant que c'est un petit peu plus clair, comme ça l'a été hein, de 2008 à 2015, logiquement, les abus devraient être plus facilement reconnaissables. Donc, ce que je conseille aux acheteurs, alors on a encore quelques jours avant mercredi, hein, qui est la date d'entrée des soldes. Si vous souhaitez acheter quelque chose, si vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose pendant les soldes, vous savez déjà ce que vous voulez, commencez à aller sur les sites, regardez les prix pratiqués, faites peut-être des captures d'écran ou des photos, de manière à pouvoir vérifier que quand mercredi arrivera, quand vous retournerez en magasin ou directement sur Internet, voir bien si le prix en fait de référence, donc le prix barré, est bien celui qui était pratiqué dans les jours qui ont précédé en fait la vente.
Mmh.
Si c'est pas le cas, effectivement, il y a des moyens en fait hein, de pouvoir faire que des contrôles soient exercés. Donc ce sont les inspecteurs de la DDPP, la Direction départementale de protection des populations, hein, qui peuvent être interpellés. En fait, c'est la répression des fraudes hein, qui peuvent être interpellés pour signaler en fait des comportements anormaux, hein, c'est-à-dire un gonflement des prix, donc une pratique commerciale déloyale ou trompeuse. Le plus simple, alors vous pouvez appeler la DDPP, hein, donc au niveau du département, vous pouvez trouver un numéro de téléphone, vous pouvez les contacter sur Quimper. au niveau du Finistère. Et vous pouvez autrement accéder à la plateforme qui s'appelle Signal Conso, alors ça doit être .gouv je crois, qui, vous tapez Signal Conso dans un moteur de recherche, vous allez trouver, et ça, vous allez
.gouv.fr.
Voilà, ouais. C'est ça. Et où vous allez pouvoir signaler ce type de comportement ou qui peuvent servir en dehors des soldes aussi. Si vous avez un souci avec une entreprise, un commerçant, vous pouvez très bien signaler ce comportement sur cette plateforme. Et c'est donc la DDPP qui va être informée en fait, de ces comportements. Il va voir s'il y a des choses, va pouvoir envisager un contrôle, tout simplement.
Et alors, en dehors de cette question des prix, de pratiques commerciales trompeuses en période de soldes ou de promo d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un litige? Alors, qui porte sur autre chose, qui porte sur justement la reprise ou l'échange.
Alors, la reprise ou l'échange, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, dès lors que l'on n'est pas sur Internet avec ce délai de rétractation, c'est un peu au bon vouloir du commerçant, dès lors que c'est un prix fixe. Maintenant, si vous avez un litige qui porte sur un problème,
un défaut, des choses comme ça,
il faut commencer par aller voir le vendeur ou contacter le vendeur par Internet et signaler ce dysfonctionnement. Si effectivement, il ne vous propose pas une reprise, un échange ou autre, je dirais qu'il faudra passer peut-être par un courrier dans un premier temps pour confirmer la demande que vous aurez fait par oral ou par écrit par Internet. Je vous invite, si ça ne marche pas et que la demande d'application des garanties de conformité ou des vices cachés, de venir voir une association de consommateurs comme la nôtre, de manière à ce qu'on puisse nous intervenir sur le dossier. Et je vous dis autrement, en fonction du type de litige, ça peut être un signalement sur signalconso.gouv.fr.
Alors sinon, il existe aussi un médiateur de la consommation,
alors,
c'est ça ?
Pour avoir un médiateur, effectivement, les commerçants doivent dépendre d'un médiateur de la consommation. Mais ça, ce n'est pas de premier abord. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle, utiliser tous les recours internes. Donc faire les démarches que je vous ai dit là, c'est-à-dire au moins un courrier recommandé avec accusé de réception. Après, il faut voir en fonction si c'est une chaîne ou autre, il y a peut-être plusieurs niveaux, c'est-à-dire le service client, le service consommateur. Si vraiment, effectivement, arrivé à ce stade-là, vous n'avez pas eu satisfaction, logiquement, le commerçant doit vous transmettre les coordonnées du médiateur de la consommation duquel il dépend et effectivement, vous pourrez soumettre ce litige au médiateur de la consommation.
Mais eux-mêmes, ces médiateurs ou médiatrices dépendent de qui exactement ?
Alors, en fait,
ils sont indépendants ?
Enfin, alors, oui, ils sont indépendants, oui, tout à fait. Vous avez par exemple, en dehors de commerce, vous avez les plus connus, c'est le médiateur de l'eau, le médiateur de la banque, le médiateur des assurances, les médiateurs du tourisme. Voilà. Après, souvent, tout ce qui va être commerçant, ce sont des médiateurs, ce sont des regroupements de personnes, mais qui sont effectivement, ils sont indépendants et ils doivent, en fait, ces commerçants doivent adhérer, en fait, à ces structures-là. Et ils doivent vous fournir les coordonnées de ces médiateurs de la consommation qui, alors, n'ont pas de pouvoir contraignant. C'est vrai que la plupart du temps, quand ils interviennent et qu'ils rendent un avis en faveur plutôt de l'acheteur, la plupart du temps, c'est suivi des faits. Mais après, ils n'ont pas de pouvoir contraignant, si ça ne marche pas ou si le commerçant ne suit pas, en fait, la décision ou si la décision du médiateur n'est pas favorable, il faudra saisir le tribunal.
Alors, le tribunal, c'est quel tribunal ?
On est en matière de contrat, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose, donc vous êtes lié par un contrat avec le commerçant. Donc, c'est le tribunal civil. Vous allez pouvoir demander, en fait, réparation d'un préjudice. La plupart du temps, il faut donc l'évaluer financièrement. Donc, ça peut être le remboursement, donc vous calculez le coût du produit, ou la réparation, vous faites réparer par quelqu'un, donc ça va être ce coût-là, et vous allez saisir le tribunal d'instance. Alors soit, si on est à un prix inférieur à 5000 euros, ça va être par simple déclaration au greffe, donc c'est-à-dire c'est un document en fait que l'on peut télécharger, un document CERFA, donc qui sont les documents officiels que vous pouvez compléter et adresser au tribunal, ou sinon plus de 5000 euros, donc on est aussi devant le tribunal d'instance, mais là vous devrez passer par un huissier. Et plus de 10 000 euros, on va devoir passer par l'huissier pour saisir le tribunal également, mais aussi par ministère d'avocat. Maintenant, ce qu'il faut voir en matière de litige inférieur à 5 000 euros, alors en dehors de la médiation dont on parlait tout à l'heure, on va devoir faire une conciliation. C'est-à-dire que pour les litiges qui fond sur un montant inférieur à 5 000 euros, il va falloir passer par le conciliateur de justice. Conciliateur, donc vous pouvez contacter vos mairies. La mairie doit vous donner les coordonnées, en fait, ou prendre rendez-vous pour vous avec le conciliateur de justice. Donc vous allez exposer votre situation au conciliateur de justice qui va rendre un avis.
Quelle que soit la somme, enfin, je veux dire...
Pour les litiges inférieurs à 5 000 euros.
Ah, d'accord, voilà. Ok.
Donc, parce qu'ils ne sont compétents que pour ces litiges-là. Après, effectivement, vous allez passer par un huissier, voire par un avocat, donc effectivement, les démarches vont être différentes.
Bon, ça ne sera sans doute pas pour des vêtements. Globalement, quand la CLCV n'est pas trop confrontée, j'imagine, à des problèmes en période de solde, si...
Non. Après, pour des promotions ou autres, c'est plutôt les achats sur Internet pas mal de choses. Mais pour les soldes, non, on n'a pas trop de retours. Je pense que les gens se débrouillent quand même un petit peu ou se disent, bon, bah, ce n'est pas des gros achats, donc ne font pas forcément les démarches. Mais c'est quand même bien d'être informé sur ses droits et ne pas hésiter à les faire appliquer.
Mmh. Et ne pas hésiter aussi à se rendre quand on a un litige commercial, quel qu'il soit, dans les permanences de la CLCV qui continue, notamment Châtelain.
Voilà, Châtelain aussi, Carré. Après, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la CLCV du Finistère. Vous tapez CLCV Finistère et vous allez avoir la liste de toutes nos permanences sur le département.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Valérie Boulch. On commence très bien l'année grâce à la CLCV. À bientôt.